Panorama Économie.
Bonjour et bienvenue à Panorama Économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Au sommaire de cette émission, la Banque centrale du Congo a pu maintenir une stabilité des prix pendant le premier semestre de l'année 2012 et compte maintenir le cap pour le reste de l'année. L'Institut d'émission a publié son rapport semestriel cette semaine. Une affaire oppose actuellement au tribunal de commerce de Kinshasa la société NBC, une société de droit congolais à quatre entreprises de téléphonie mobile, mais aussi à l'autorité des régulations de postes et télécommunications pour troubles de jouissance. Nous y reviendrons dans cette émission. Et puis, la compagnie suisse Nestlé a ouvert une usine de fabrication des produits culinaires de marque Maggi. 85% de la main-d'œuvre est congolaise. La matière première est également puisée localement. Panorama économique à la présentation Jocelyne Moussaopondé et Agathe Mpona-Elema. Nous recevons pour vous, pour commenter et analyser l'actualité de la semaine, Serge Mumbu. Il est patron de l'agence Target, une agence spécialisée dans les études de marché et dans le conseil marketing. Bonjour Monsieur Mumbu.
Bonjour.
Panorama économique, le dossier.
La Banque centrale du Congo a publié mardi son rapport sur la politique monétaire au premier semestre 2012.
Au cours de cette cérémonie, le gouverneur de la Banque centrale a affirmé que les objectifs de la politique monétaire sont restés sous contrôle. Il s'agit notamment du niveau des prix qui est resté stable. Des détails avec Paul Matendo.
Dans ce rapport, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a noté que la conjoncture internationale, caractérisée par la dette souveraine dans la zone euro, ainsi que la hausse significative des prix des produits agricoles, n'a pas empêché la Banque centrale du Congo d'atteindre ses objectifs, entre autres la stabilité des prix. Selon Jean-Claude Massangou, l'atteinte de cet objectif a nécessité une manipulation des instruments de politique monétaire. Parlant de la politique du change, Jean-Claude Massangou a noté que la Banque centrale intervient de façon régulière sur les marchés.
En début du mois de janvier, elle a d'abord vendu sur le marché plus ou moins 29 millions de dollars avant d'acheter par la suite une somme de 34 millions de dollars, confortant ainsi ses réserves internationales de 5 millions de dollars et les portant à 1 milliard 381 millions à fin juin 2012. Qui représente 7,8 semaines d'importation.
Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a aussi souligné que son institution a procédé par trois fois à l'assouplissement de sa politique monétaire par le biais de la baisse de son taux directeur face à la croissance économique et à l'accumulation des dépôts de l'État. Le taux directeur est donc passé de 20% fin décembre 2011 à 9,5% à la mi-juin 2012. Pour le reste de l'année, la Banque centrale du Congo promet la poursuite d'une politique monétaire prudente.
Voilà, on se tourne directement vers notre invité, M. Serge Mumbu. Vous êtes dans le domaine d'études de marché. Vous êtes donc sur terrain. Ce rapport parle de la stabilité des prix pendant le premier semestre 2012. Est-ce que ces constats ont aussi été faits par votre agence?
Bon, effectivement, il y a une relative stabilité des prix et ça se voit en termes de taux de change parce que beaucoup de produits sont fixés en lien avec le dollar.
Oui.
Il y a une relative stabilité des prix, mais malheureusement, il se pose un problème de pouvoir d'achat.
Donc les prix ont beau être stables, mais le pouvoir d'achat de la population, lui, ne suit pas.
Oui, le pouvoir d'achat ne suit pas. Voilà pourquoi il faudrait que des efforts soient faits non seulement en termes de stabilité de prix, mais aussi en termes de relance de l'économie, en termes de croissance, en termes d'investissement, pour que les Congolais aient les moyens de s'acheter des choses. Parce que s'il y a des produits qui sont exposés que les gens n'achètent pas, c'est normal que les prix soient stables.
Mais est-ce que Target a déjà eu à faire des études sur l'évolution des prix sur le marché?
Bon, nous on ne fait pas ça parce que nous estimons qu'il existe des institutions qui sont censées régulièrement le faire. Et de la même manière, la Banque centrale publie régulièrement des statistiques. Nous aimerions que l'Institut national de la statistique aussi soit également outillé pour mettre à la disposition.
Mieux outillé parce que de temps en temps, l'INS publie des rapports aussi.
Oui. Mais j'aimerais que ce soit comme la Banque centrale parce que quand vous regardez dans le site, la Banque centrale a un site qui est régulièrement actualisé et on a la possibilité, nous qui faisons des études, de voir, de comparer. Et même hier, je suis entré dans le site, j'ai vu des données qui sont quand même assez récentes,
oui.
Notamment le bulletin de conjoncture pour le mois d'août. Donc, oui. C'est quand même actualisé. Donc, il faudrait que cette culture-là de publier des chiffres soit régulière et surtout qu'elle soit actuelle. C'est-à-dire que ce serait été mieux, par exemple, que le rapport du premier sommet soit publié au mois de juillet. Au lieu que ce soit publié
à la fin septembre.
Donc il faudrait vraiment qu'il y ait des efforts pour que les chiffres soient publiés régulièrement, comme cela se passe ailleurs, que ce soit les institutions publiques, mais également aussi les entreprises.
Les entreprises, ouais. Les régies financières.
Donc si on peut instaurer cette culture-là, ce serait vraiment bon pour notre pays.
Ça serait bon pour notre pays. On passe tout de suite au deuxième dossier. Une affaire oppose actuellement au tribunal de commerce de Kinshasa la société NBC, une société de droit congolais, aux entreprises de téléphonie mobile Vodacom, Oasis, RTL, Africel, mais aussi l'autorité des régulations de postes et télécommunications pour troubles de jouissance.
En clair, Jocelyne, la NBC reproche à ces entreprises d'empiéter sur sa fréquence et à l'ARPTC d'avoir attribué cette fréquence d'exploitation d'Internet 3G qui lui revient de droit depuis décembre 2004. Selon Maître Serge Lukanga, l'un des avocats de NBC, la Netherlands British Company, qui a pour objet l'émission et la distribution des signaux visuels par réseau hertzien de télédistribution, a obtenu depuis 2004 une autorisation d'exploitation du ministère des PTT pour une durée de 10 ans. NBC demande donc au tribunal de commerce de suspendre l'usage de cette fréquence par ces sociétés en attendant que les responsabilités soient établies. Mmh. Elle demande également qu'elles soient remises dans ses droits. Et de l'autre côté, particulièrement les avocats de Celtel Congo ont contesté le droit de NBC au regard de l'autorité qu'il a attribuée. Pour lui, un ministre n'octroie pas d'autorisation, c'est plutôt à l'ARPTC de le faire. Un ministre signe plutôt désarrêté. Donc l'affaire se poursuit au tribunal de commerce.
Serge Mumbu, visiblement un conflit de compétences entre le ministère des Postes et l'autorité de régulation de postes et télécommunications. Vous dirigez une agence, je l'ai dit tantôt, spécialisée en études de marché et en conseil marketing, dont vos tâches également, vous menez des études pour des entreprises qui viennent nouvellement s'implanter en RDC, des entreprises qui n'ont peut-être pas certaines informations sur différents services à contacter. Que conseillez-vous aux entreprises qui viennent solliciter vos services pour qu'elles ne tombent pas dans ces cas de confusion?
Bon, nous conseillons que lorsqu'une nouvelle entreprise vient, il faudrait qu'elle puisse s'adresser à des professionnels. C'est toujours mieux. Par exemple, vous avez un cabinet d'avocats qui peut vous aider pour les démarches. Vous avez une fiduciaire qui peut vous aider pour ça. Donc, c'est mieux de recourir à des spécialistes. Eux qui maîtrisent bien le terrain, eux qui maîtrisent bien toutes les informations, peuvent vous aider à éviter de commettre des erreurs. Parce que celui qui a des intérêts quelque part peut vous orienter dans un service, peut vous brandir un document alors que ce n'est pas le document qu'il faut.
Mais un sérieux aussi du côté des décideurs, parce qu'on peut facilement confondre le ministère de PTT et l'autorité des régulations de postes.
Et on confond autorisation à arrêter.
Voilà pourquoi ce sont des choses qui doivent être clarifiées. Mais moi, j'aimerais quand même insister sur un fait, c'est que lorsqu'on dit qu'on améliore le climat des affaires, ce n'est pas encourageant pour des opérateurs qui ont dépensé 15 millions de dollars pour acheter une licence, pour que, quelques temps après, qu'on vienne leur dire que la licence n'est pas bonne. Donc je pense que ce sont les genres de choses qui ne sont pas de nature à encourager et surtout à rassurer le monde des affaires. Donc il faudrait qu'on voie comment clarifier ça le plus tôt possible.
Et l'un de vos clients est concerné dans cette affaire, notamment Africel, pour qui vous avez mené des études de marché tout récemment. Nous allons un peu sortir de ce domaine pour parler d'études des marchés. Quelle analyse faites-vous du marché des télécoms? Les communications, puisque c'est de ça qu'il s'agit.
Bon, j'aimerais d'abord faire un petit rectificatif.
Oui.
C'est que nous ne sommes pas clients Africel. Nous avons profité du lancement d'Africel pour faire une réflexion sur le marché de la téléphonie mobile.
Oui.
Nous, on est là pour réfléchir, on est là pour conseiller, mais on s'est dit, comme Africel commence, une nouvelle société qui devrait commencer, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Ce n'est pas qu'Africel a recouru à nos services, qu'elle nous a demandé, mais nous avons réfléchi parce que nous estimons que c'est important que la réflexion soit dans notre pays et que nous, en tant que cabinet, que nous puissions régulièrement profiter de l'actualité pour pouvoir faire des analyses. C'est en ce sens-là que cette étude-là avait été faite.
Et quel constat avez-vous fait?
Le constat que nous avons fait, c'est qu'il existe des opportunités actuellement, parce que le taux de pénétration de la téléphonie mobile est encore faible, c'est 17% à peine. Donc il y a encore peu de gens qui ont le téléphone. Mais de l'autre côté aussi, les opérateurs actuels ont du mal à satisfaire. Il y a beaucoup de plaintes qui sont faites quant à la qualité des services. Et nous estimons qu'un nouvel opérateur qui pourrait venir en RDC, s'il arrive à offrir un réseau de meilleure qualité et une meilleure couverture, il peut arracher les abonnés des sociétés actuelles. Donc c'est ce que nous avons dit, et que les sociétés actuelles doivent maintenant faire un effort pour fidéliser les clients, pour que les clients aient une relation émotionnelle avec eux, qu'ils n'aient pas envie de partir. De la même manière, nous avons des fanatiques de Mazembe, que nous avons aussi des fanatiques des réseaux téléphoniques, de sorte que quoi qu'il arrive, quoi que les autres proposent, qu'ils restent attachés à ça. Et c'est ça qu'il faudrait faire, et développer un marketing agressif et un marketing qui ne fait pas ce que les autres font. Il faut comprendre ce que les consommateurs veulent et leur proposer un service de qualité.
Mais le grand problème, c'est que ces entreprises ne s'arrêtent que dans les grandes villes, alors que le marché est encore vierge ailleurs.
Dans le milieu rural, par exemple, la téléphonie mobile n'est pas tellement développée.
Bon, c'est lié au fait que l'investissement vient progressivement. On ne peut pas d'emblée comme ça mobiliser beaucoup d'argent pour pouvoir aller partout.
Aller partout, non, mais à commencer d'abord par ces marchés-là.
Oui, effectivement, les opérateurs sont en train de le faire. Parce que quand vous regardez certains opérateurs, ils sont installés dans plus de 500 villes. Donc, dans certains coins de la République, effectivement, c'est installé. Et aussi, il y a des études préalables qui se font. On appelle ça des études de géomarketing pour essayer de voir est-ce qu'il y a une opportunité, quelle est la propension à avoir un certain nombre d'abonnés. Et on fait des études pour savoir si on installait un pylône ici, quelle serait la rentabilité pour pouvoir faire ça. Donc, c'est une implantation qui est progressive.
Mais en amont, s'installer dans de tels coins pourrait aussi booster le développement économique de ces coins qui ne semblent pas intéressants à première vue. Mais quand une société de téléphonie mobile brave tous les obstacles pour y aller quand même, ça peut booster le développement économique du coin.
Voilà pourquoi nous estimons que l'État a un rôle important à jouer. Parce que le rôle de l'État, c'est faciliter les opérateurs économiques. Ceux qui veulent investir, c'est à l'État de faire en termes d'exonération, mais aussi en termes de facilité aussi. Parce que vous allez voir que les opérateurs actuellement se plaignent de la taxation qui est un peu excessive aussi. Donc je pense que l'État aussi doit comprendre, doit essayer de voir comment accompagner ces opérateurs-là qui ont déjà investi, mais comment faire en sorte qu'elles investissent encore davantage. C'est dans l'intérêt aussi du gouvernement congolais que nous puissions avoir beaucoup de sociétés ici. Vous savez, dans d'autres pays, les licences, ça se vend cher.
Oui.
Donc ça peut être une source d'entrée pour le pays.
Une source d'entrée, c'est une nouvelle usine de fabrication de produits culinaires de marque Magie qui est implantée depuis cette semaine à Kinshasa.
Elle a été inaugurée plus exactement mercredi par la société Nestlé Congo en présence des autorités congolaises. Cette usine emploie plus de 60 travailleurs congolais avec un coût d'investissement de 15 millions de francs suisses. Des détails avec notre confrère Askin Zigbia Tayoro qui était sur place.
Nestlé Congo dit avoir démarré cette usine avec une main-d'œuvre à 85% congolaise. Les agents techniques sont plus des ingénieurs sortis de l'ISTA Kinshasa. Pour les responsables de cette société, l'usine utilise de matières locales de manière à créer des opportunités commerciales diverses pour les opérateurs économiques agricoles. Alfredo Fenoloza.
Il y a des ingrédients comme le sucre, le sel, l'huile de palme. Tous ces ingrédients, on peut très bien le fournir localement. Quand on parle d'alimentation, on doit être très proche des producteurs. On se rapproche tellement de nos sources, qui est l'agriculture. On ne veut pas avoir de produits chimiques dans nos produits. Donc ça développe aussi la base agricole du pays. Ça aide les gens à se développer, à faire plus de ce qu'ils font aujourd'hui.
Cet outil de développement est dénommé usine de Kingaboa. Il a la capacité de produire 7000 tonnes de cubes magiques par an. D'après le manager de Nestlé Congo, la production pourra couvrir toute la RDC. Mais selon Hervé Barrère, il faudra y mettre un peu de moyens pour améliorer des infrastructures routières ou fluviales de manière à acheminer les produits à l'intérieur du pays. Il faut noter qu'il a fallu à Nestlé Congo 29 mois pour construire cette usine dans le quartier Kingaboa, soit de février 2010 à juillet 2012.
On revient encore sur le rôle de l'État dans l'amélioration des conditions de travail pour les investisseurs en RDC.
Oui, effectivement, je suis très content d'abord qu'il y ait une nouvelle usine qui puisse ouvrir, parce que nous savons qu'il y a des sociétés qui ont fermé des usines, notamment dans le domaine tabacicole.
Oui.
Donc si aujourd'hui il y a des usines qui sont en train de s'ouvrir en termes de main d'œuvre, c'est quelque chose de bien, et surtout pour les producteurs locaux. Donc on peut arriver à aider les petits producteurs grâce aux moyens qu'on peut leur donner en essayant de les prendre comme fournisseurs. Donc
oui,
c'est quelque chose qui est très bien. Mais je reviens à ce que vous avez dit là en termes d'infrastructure. Donc déjà, Nestlé se plaint de l'approvisionnement des matériaux. Et je sais que certaines entreprises, notamment dans le domaine tabacicole, ont eu des problèmes aussi en termes d'acheminement. Donc ce problème d'infrastructure doit être vraiment pris au sérieux par notre gouvernement pour voir dans quelle mesure améliorer l'état de desserte des routes, pour qu'on arrive facilement à acheminer, mais surtout aussi avec le chemin de fer. Parce que dans d'autres pays, c'est par le chemin...
Qui certainement va reprendre, parce qu'on est en train de démolir les habitations le long de la voie ferrée.
Oui. En tout cas, nous espérons vraiment que ça sera une aubaine pour notre gouvernement pour voir comment faciliter les opérateurs économiques.
Mais Nestlé, nous savons que c'est un grand groupe avec une large gamme de produits. Mais jusque-là, au Congo, elle va s'arrêter seulement à la production
de bouillons
de marque Magie. Est-ce que vous pensez que cela soit opportun pour Nestlé de fabriquer d'autres produits comme les produits laitiers et autres?
Bon, je crois que avoir lu quelque part qu'ils ont commencé par les bouillons parce que leurs produits sont beaucoup prisés par la population.
Mais le lait Nestlé est consommé ici,
oui, également.
Le yaourt.
Bon, je pense qu'il vaut mieux commencer par quelque part. C'est-à-dire que c'est mieux de commencer de produire quelque chose qui marche, de sorte qu'avec les entrées, on a la possibilité d'attirer des investisseurs. Parce que les investisseurs, généralement, il faut leur présenter un dossier.
Mmh.
Arriver à démontrer qu'effectivement, nous avons investi autant et voilà ce que cela nous rapporte. Et avec ça, on veut l'extension de l'usine. Donc, je pense qu'il y aura une extension.
Mais en tant qu'expert en études de marché, est-ce que vous pensez que cela soit faisable pour Nestlé, fabriquer ici du lait?
Bon, je pense qu'il faudrait d'abord voir en termes de standards de qualité. Parce que je sais que les groupes internationaux, généralement, ils ont des standards de qualité. Est-ce que ces standards-là, ils pourront être appliqués ici? Là, c'est à leur niveau pour voir.
Mais quel conseil marketing vous donneriez à une telle entreprise pour qu'elle ne connaisse pas le sort des entreprises comme Utex Africa qui ont fermé ou l'entreprise tabacicole que vous êtes en train de citer? Quel conseil vous donneriez à une telle entreprise pour qu'elle se pérennise ici?
Bon, comme j'ai dit, il faudrait d'abord savoir les produits que les gens veulent. Quels sont les produits que les gens aiment, que les gens veulent, et se focaliser d'abord sur ces produits-là. Et aussi essayer de voir si c'est possible de développer des produits particuliers. Quand vous parlez par exemple des pagnes, rappelez-vous à l'époque, nous avons eu des pagnes, des sortes d'épagnes qui étaient sorties, mais qui n'étaient pas d'épagnes de bonne qualité.
Mm-hmm.
Parce que on nous proposait des pagnes, certes de bonne qualité, qui étaient un peu plus élevées. Et aujourd'hui, il y a une société hollandaise qui est venue, mais qui propose aussi des pagnes, mais qui sont un peu plus ou moins bas de gamme, pour essayer quand même de satisfaire à ces demandes-là. Donc c'est important à leur niveau de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent produire et qu'est-ce qui est intéressant de lancer sur le marché, et surtout être à l'écoute des consommateurs. Je n'ai rien contre les standards internationaux, je n'ai rien contre les produits internationaux, mais c'est aussi important de voir est-ce que la composition, par exemple, du lait que nous allons proposer ici, est-ce que ça correspond aux attentes ou pas. Donc c'est à ça qu'il faudrait faire.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Le reste de l'actualité de la semaine, l'usine de panification de Kinshasa, UPAC, dénonce la présence suspecte de deux agents de maisons concurrentes. C'était la nuit de lundi à mardi dernier vers 2h du matin.
Ces agents qui se sont présentés l'un comme agent de sécurité et l'autre comme journalier travaillant à l'usine concurrente Pain Victoire avaient été surpris en train de lorgner les machines de l'UPAC. L'entreprise a donc porté plainte contre les deux individus au parquet de grande instance de Calamou pour espionnage. Du côté de Pain Victoire, on affirme que UPAC doit prouver que ces agents sont effectivement des agents de Pain Victoire et qu'ils ont été mandatés par cette entreprise. Du reste, elle prépare une plainte contre UPAC pour diffamation.
Et puis l'impôt sur le revenu locatif et l'impôt foncier devront désormais être versés directement par voie bancaire dans la ville de Kananga.
Décision prise vendredi dernier par le gouverneur de province du Kasaï occidental, une décision accueillie avec réserve par certains experts. Pour ces derniers, sans mesure d'encadrement efficace et une sensibilisation de la population, ce projet ne va rien apporter à la province.
Voilà, Serge Moumbou, l'initiative du gouvernement congolais de payer ses fonctionnaires par voie bancaire porte de fruits. Et voilà, il y a des structures qui emboîtent les pas, mais est-ce que les craintes des experts sont fondées?
Oui, je pense que les craintes sont fondées dans ce sens qu'il faudrait qu'il y ait au préalable une information. Il faudrait qu'il y ait une campagne pour que tout le monde sache. Parce qu'on risque d'aller verser de l'argent dans un compte qui n'est pas un compte dédié, en fait. Donc il faudrait qu'il y ait d'abord ces préalables-là. Il faudrait d'abord qu'il y ait l'information. Et moi, je me réfère à ce qui s'est passé avec les vignettes ici à Kinshasa. Je me rappelle, lorsque nous payions nos vignettes, on allait les payer directement à la banque. Et nous amenions chez l'agent de la DGRK une preuve déjà bancaire. Et l'argent était directement viré dans le compte bancaire. Donc c'est important qu'il y ait cette information préalable. Or, dans le cas de la ville de Kananga, apparemment ça n'a pas été fait. Voilà pourquoi les gens sont sceptiques.
Panorama économique, matière première.
Matière première, une mine de diamants située en Sibérie, dont l'existence a été gardée secrète pendant des décennies, dispose d'une réserve estimée à 110 fois supérieure aux réserves mondiales de diamants.
La semaine dernière, c'est l'Institut de géologie et de minéraux Sobolev en Sibérie qui l'a annoncé. Il s'agit de diamants de type utilisé pour les instruments de forage et des pièces d'aéronautique. L'estimation de cette réserve est contestée par plusieurs experts dans le monde, dont des Congolais. C'est le cas du professeur Kampata, coordonnateur de la cellule technique et de planification minière, qui conseille tout de même la prudence, car si cela s'avérait vrai, cette découverte risque de bouleverser le marché congolais du diamant. Nous l'avons eu cette semaine au téléphone. Voilà ce qu'il nous a dit.
Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, dans les Kasaï orientales, est la première en réserve mondiale en diamants industriels.
Oui.
Ici, c'est la question qui a été soulevée. Si bien j'ai suivi les explications qui sont données, il s'agit d'un gisement à peu près surnaturel, si excusez-moi les termes, dans le sens que ce n'est pas les diamants d'une kimberlite, kimberlite étant la roche mère du diamant.
Oui.
Ici, c'est une météorite qui est tombée sur des graphites. Mmh. Graphite, c'est quelque chose qui a une composition de carbone.
Oui.
Alors, vous savez, une météorite, quand elle tombe, et il tombe à une très grande, et provoque une grande pression.
Oui.
Or, les diamants, qui parlent des diamants, parlent de pression. Les diamants, c'est fait ici sur la Terre à des profondeurs équivalentes à 200 km de profondeur. Donc, il y a une très grande pression, haute température, les carbones s'est transformé directement en diamants. Alors, ça c'est une évidence, ça c'est d'accord, scientifiquement ça s'explique. Mais trouver un gisement qui est 110 fois plus... Le réserve mondiale, ça c'est impossible. Si je prends même la quantité qui est donnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gangue, il n'y a pas d'autres minéraux, il n'y a que les diamants. C'est comme si on ramassait les diamants à la pelle.
Mais si, si ça s'est confirmé, si l'Institut national de géologie en Russie a confirmé cela, comment pouvez-vous le contredire?
Je dis simplement, je voulais vous dire que même la grande société... exportatrice de diamants en Russie a contesté aussi ces chiffres. Les chiffres que vous avez donnés de 100 fois plus de réserves mondiales, tout le monde conteste ça.
Mm-hmm. Oui.
Cette météorite-là, bon, de quelle dimension, même si on les faisait, mais ce n'est pas possible.
Et vous pensez que cette découverte ne va pas bouleverser le marché mondial de diamants, et en particulier le marché congolais?
Non, mais vous savez, le marché congolais, nous avons nous avons des réserves importantes en diamants industriels, parce qu'ici, il ne s'agit que des diamants industriels, pas de diamants de joaillerie. Hein.
Oui.
Alors, actuellement, la MIBA n'exploite pas son diamant, Yaskim n'exploite pas les diamants en grande partie, mais si on trouve un gisement, comme vous le dites, et ça va bouleverser les marchés quand même. Parce qu'actuellement, la MIBA ne produit pas, comme la Yaskim ne produit pas en grande quantité, c'est-à-dire que le besoin est là. Mais lorsqu'on trouve encore une société qui va mettre sur le marché mondial beaucoup de diamants, ça va perturber nos réserves. Ça, je suis certain avec vous. Mais ce que je conteste, mais paraît-il, d'après l'information que j'ai suivie, on dit deux fois plus les réserves mondiales. Ça, c'est quand même, ça peut s'expliquer.
Mm.
Mais 100 fois, ou 100 et 10 fois plus les réserves mondiales, là non, là c'est catastrophique.
Ouais. Mais si le marché, si on parlait de deux fois, comme vous dites, ça va quand même bouleverser notre marché, comment contourner cela? Parce que les autres, nous savons qu'ils sont avancés en technologie, ils vont sûrement transformer leur brut. Nous nous arrêtons à la production, pas à la transformation. Comment justement contourner ce problème?
Oui, dans les cas ici, il faudra que l'État congolais, comme vous connaissez l'histoire de la MIBA, l'AMIBA a besoin de l'argent. Elle a besoin à peu près de 140 millions. Skim a lancé un appel d'offres international. Je crois qu'il y a une société chinoise, des sociétés américaines, il y a des sociétés belges qui sont intéressées par l'appel d'offres. Je ne sais pas celui qui va gagner les marchés. Ici, il faut y aller vite. Aller vite, c'est quoi? C'est-à-dire qu'occuper déjà les marchés. Parce que si vous n'êtes pas sur les marchés, vous arrivez en retard. Là, ça va vous créer des problèmes.
Mm-hmm.
Hein? Parce que le risque, vous connaissez leur politique, c'est faire d'abord des réserves. Alors, nous devons nous retrouver déjà sur les marchés comme avant, parce qu'on a été premier producteur de diamants industriels.
Mm-hmm.
Et ces besoins-là, la demande est toujours là, et il faut le faire rapidement.
Qui doit faire rapidement?
C'est l'État, c'est notre État. Si on peut appuyer la MIBA et Skim pour qu'ils produisent, au lieu de garder les réserves dans les sous-sols, les appuyer, les aider et à produire.
Professeur Kampata, je vous remercie.
Merci beaucoup, madame. Merci.
Serge Mumbu, vous venez de suivre le professeur Kampata.
Il a suivi très attentivement, je l'ai vu.
Un commentaire à faire?
En fait, le commentaire que j'aimerais faire, c'est que au-delà de la polémique sur les chiffres, que ce soit 110 fois
sur
ou
les
deux
fois,
sur les estimations, que ce soit 110 ou deux fois, mais ça doit beaucoup nous interpeller, parce que on a voulu toujours nous dire que nous sommes le premier producteur, nous avons le plus grand potentiel, mais là,
qu'on transforme pas.
Mais là, il y en a qui en ont. Et j'aimerais bien aussi, comme je suis un spécialiste en marketing, j'aimerais aussi attirer l'attention de nos gouvernants pour dire qu'aujourd'hui, il faut privatiser ou il faut libéraliser les secteurs, il faut appeler les investisseurs. Si le gouvernement n'est pas capable, n'a pas les moyens de relancer une entreprise comme la MIBA, il faut penser à ce que ceux qui en ont les moyens puissent venir.
Qu'on ouvre, que les capitaux soient ouverts.
Donc, ce serait important d'ouvrir le capital et aussi, ce serait aussi intéressant que notre gouvernement puisse voyager aussi avec des opérateurs économiques pour pouvoir avoir des marchés. On voit les présidents français et américains lorsqu'ils voyagent dans leurs délégations,
il y a des hommes d'affaires.
Il y a des hommes d'affaires qui sont là. Donc je pense que c'est le moment que l'État aussi s'implique dans.
Mais il y a quelqu'un qui a commenté sur le site internet cette information en disant qu'on devrait laisser tomber les mines et s'occuper de d'autres secteurs parce que le secteur minier ne nous rapporte que des guerres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense qu'il faut mettre la main partout. Donc c'est important que d'un côté, qu'on voie comment effectivement jouir de nos mines, mais surtout investir. Je veux le professeur a parlé des nouvelles technologies, même pour l'extraction des minéraux. Il y a maintenant des technologies qui sont beaucoup plus efficaces et ce serait intéressant qu'on soit en fait à jour que plutôt continuer à utiliser des creuseurs qui parfois exposent leur santé et leur vie inutilement.
Voilà Serge Mumbu, c'est sur ces commentaires que nous mettons un point final à cette émission Panorama économique de ce samedi. Merci à vous d'être venu dans ce studio de Radio Capi pour commenter, analyser avec nous l'actualité économique de la semaine. Je rappelle que vous êtes patron de l'agence Target, qui est une agence spécialisée en études de marché et en conseil marketing. À vous tous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous avec l'économie, c'est lundi 18h15, heure de Kinshasa pour Écho d'économie. Panorama économique, c'est samedi prochain, midi et demi, heure de Kinshasa. Bon week-end à vous tous.
Bon week-end.